Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous continuons notre lecture de Blaise Pascal, Les Pensées, et nous sommes dans la première partie qui porte sur la misère de l'homme. Nous lisons aujourd'hui un fragment magnifique, un des plus profonds, sur le temps, la question de la temporalité qui a beaucoup occupé Pascal. Je lis. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours. Ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudent que nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient. Et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige. Et, s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Fin de citation. Relisons, méditons. Premier point, Pascal observe que nous ne nous tenons jamais au temps présent. La question donc est celle de savoir où est-ce que nous nous tenons, dans quel temps nous nous tenons, où est-ce que nous avons notre tenue. Et la thèse de Pascal, c'est que nous n'avons pas notre tenue, nous n'habitons pas le présent. Nous nous tenons dans d'autres temps, et nous avons vu la fin, le seul temps en fait que nous considérions et encore sera-ce de façon illusoire, c'est l'avenir. Regardons de plus près. Il faudra aussi comprendre pourquoi nous ne nous tenons jamais au temps présent. Qu'est-ce qui nous empêche de nous y tenir? Nous voyons bien que s'il s'agissait d'un lieu, il y a des lieux intenables, des lieux dans lesquels nous ne pouvons pas nous tenir, nous maintenir. Maintenant, il s'agit de penser cela pour le temps. Qu'est-ce qu'un temps intenable dans lequel nous ne pouvons pas nous tenir? Pourquoi? Pascal explicite. D'abord, nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir. Quand nous envisageons ce qui viendra, ce qui pourra venir, advenir, cela nous semble toujours, ou le plus souvent, trop lent à venir. Donc il y a une lenteur du futur, lenteur de la venue à nous de ce qui est à venir. Et nous l'anticipons en l'imaginant, demain je ferai ceci, après-demain je ferai cela. Nous l'anticipons par l'imagination comme pour hâter son cours. Mais il va de soi que le fait d'anticiper, d'imaginer ce qui pourra être en croyant que cela sera, ne hâte aucunement son cours. L'avenir, s'il advient, si la chose advient telle que nous l'avons anticipée, elle adviendra selon son rythme propre et non pas au rythme ou au gré de nos fantaisies. Deuxième attitude, après la première. La première, donc, c'est anticipation de l'avenir, parce qu'il est trop lent. Deuxième attitude, rappel du passé. Et là, le rappel du passé est symétrique de l'anticipation de l'avenir. L'avenir nous semble trop lent à venir. Le passé nous semble, au contraire, trop rapide, trop vif. C'est déjà terminé. Nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. Donc nous voudrions hâter le cours du futur, que la chose soit là plus tôt, et nous voudrions arrêter le cours, l'écoulement du temps, dans la certitude que quand la chose est là, elle n'est déjà plus là, quand le présent est là, il n'est déjà plus là, et donc il est déjà passé. Et ce passé, donc, nous voudrions pouvoir l'arrêter, le maintenir. Et voyez bien ici la tenue. Nous ne le tenons pas au temps présent parce que quand il advient, il est déjà passé. Nous voudrions pouvoir arrêter cela. On se souvient peut-être de la formule de Lamartine, « Autant suspend ton vol », etc. Donc nous voudrions pouvoir fixer, stabiliser. Mais tout l'enseignement pascal consiste à montrer ici qu'il n'y a pas de stabilité. Précisément, il n'y a pas de stabilité parce que nous sommes dans l'ordre de la temporalité. Nous sommes imprudents. Cette imprudence fait que nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. Et nous ne pensons point au seul qui nous appartient. Le seul temps qui nous appartient, c'est le présent. Mais loin de penser au présent, de nous y tenir, de l'habiter, de le remplir ou d'être rempli par ce qui nous est donné dans le présent, que faisons-nous ? Nous sommes dans l'errance. Nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres ou qui ne sont, alors, ou bien qui ne sont pas encore nôtres ou bien qui ne sont plus nôtres. À savoir, nous errons, et c'est une errance, dans l'avenir. Nous imaginons mille choses, des châteaux en Espagne, comme on pourra dire. Au contraire, nous errons en nous rappelant ce qui a été mais qui n'est plus, pour pleurer parfois ou souvent. Et par conséquent, donc, nous ne sommes jamais à notre affaire à l'égard du seul temps qui soit là, à savoir le présent. Nous sommes en même temps vains, parfaitement vains, nous retrouvons le thème pascalien de la vanité de l'homme. Notre vanité, donc le vide, le néant de notre être, tient au fait que nous songeons à des temps qui ne sont rien. Nous comprenons bien donc la mise en relation de la vanité avec le rien, précisément, c'est bien vu. Nous sommes vains parce que nous sommes tout attentifs, tout occupés, tout travaillés par le rien, par des temps qui ne sont plus rien. Cela a été, mais n'est plus rien. Cela sera, mais pour l'instant n'est rien, et peut-être même ne sera jamais rien. Et nous échappons, c'est-à-dire nous laissons échapper sans réflexion le seul qui subsiste. Le mot réflexion est ici précieux. La réflexion indique que nous devrions revenir à nous-mêmes. Nous devrions revenir par l'attention au temps présent, au temps qui nous est donné, que nous pouvons lui seul habiter, puisque c'est là que nous sommes. Or, au lieu d'habiter ce présent, nous ne revenons pas à nous en revenant à lui. C'est le seul qui subsiste, et c'est le seul que nous pourrions habiter, mais c'est le seul que nous laissons échapper, qui nous échappe un peu comme de l'eau qui coule des doigts et que nous ne pouvons tenir dans nos mains. Alors, le présent est le seul qui subsiste, dit Pascal. Est-ce qu'il subsiste ? De quelle manière subsiste-t-il ? En vérité, il ne subsiste pas. Et c'est ce qui est exprimé par la phrase suivante, qui donne la clé de tout ce fragment. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Méditons cette phrase admirable. Que veut dire Pascal ? D'ordinaire, d'abord, cela a un contraire qui est l'extraordinaire. Donc cela veut dire que par extraordinaire, il arrive que le présent ne nous blesse pas. Mais rappelons-nous que l'extraordinaire, c'est ce qui est en dehors de l'ordre. Et l'extraordinaire n'est pas nécessairement merveilleux, beau, etc. Donc la thèse, dit Pascal, c'est que selon l'ordinaire, c'est-à-dire selon l'ordre du temps, l'ordre des choses, le présent nous blesse. Que veut-il dire ? Bien sûr que telle ou telle chose peut me blesser. Telle parole, tel silence, telle situation accablante, que sais-je. La maladie, comment payer mes impôts, un enfant malade. Nous voyons bien comment il y a mille choses qui nous blessent dans le présent. Mais Pascal ne dit pas tellement cela, ou plutôt pas seulement cela. Bien sûr qu'il y a des choses qui, chaque jour, nous blessent. Mais relisons bien, que dit-il ? C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Ce n'est donc pas telle ou telle chose qui me blesse, c'est le présent qui me blesse. À ce moment-là, donc, c'est une attention au temps qu'il faut avoir. Ce qui est blessant, ce n'est pas seulement telle ou telle situation, chose, autrui, etc. Ce qui est blessant, c'est le présent, c'est le temps. Cela veut dire que même si nous étions dans une situation telle que tout nous agrée, que tout nous advient selon nos souhaits, etc., tout cela nous adviendrait selon l'ordre du temps, et cela serait toujours blessant. C'est donc bien la temporalité qui est ici source de blessure. C'est le fait de vivre dans un temps qui consiste en ceci que ce qui advient en advenant passe et déjà aboli, c'est cela qui nous blesse. Ce ne sont pas tellement, donc, ou pas seulement les choses, autrui, etc. qui nous blessent, c'est le présent qui est pour nous source de blessure. Ce présent, nous ne pouvons pas l'habiter, et nous comprenons mieux maintenant pourquoi nous ne pouvons pas l'habiter. si je relis les deux phrases, Pascal commence par dire « Nous ne nous tenons jamais au temps présent » et il ajoute maintenant « C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. » Comment nous tenir dans le présent, dans la temporalité présente, si l'être présent est un non-être et qu'il est blessure ?
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Le présent, la présence est blessante. Quelle est alors notre attitude par rapport à ce présent blessant ? Que dit Pascal ? Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige. Voilà. Ce n'est pas seulement autrui qui peut m'affliger, la méchanceté d'autrui, l'absence de ceci ou cela. C'est bel et bien le présent qui m'afflige. Et alors, quelle sera notre attitude par rapport à ce qui nous afflige ? Eh bien, le cacher à notre vue, le masquer, ne pas le regarder, détourner notre regard de lui, comme si, en cessant de le voir, nous pouvions faire qu'il cesserait d'être, ce qui est évidemment une illusion. Cacher à ma vue ce qui me blesse ne laisse pas d'être, et d'être blessant la chose qui me blesse. Pascal voit bien cependant qu'il peut arriver que quelque chose, que le présent nous soit agréable. Il l'envisage, donc il le dit, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Donc aussitôt nous avons la compréhension de notre attitude de nouveau, il arrive par bonheur, c'est le cas de le dire, que le présent soit agréable en tant que tel, que la donation de la présence soit agréable, mais à ce moment-là, il ne cesse de nous affliger, parce que le présent lui-même s'échappe. En advenant, il n'est plus. En étant, il n'est plus. Et alors, nous cherchons à l'arrêter, comme trop rapide, trop fugitif. Nous cherchons à le fixer. Ce sera essentiel au mythe de Faust, chez Goethe, par exemple. Hein. « Arrête-toi, dira-t-il, voudrait-il dire à l'instant qui passe, arrête-toi, tu es si beau. » Eh bien, alors, que faisons-nous ? Eh bien, nous regrettons de le voir échapper. Donc, même quand le présent est source de bonheur, il est source en même temps de malheur, puisque ce bonheur nous est donné en nous étant comme retiré. Il advient, mais il advient pour disparaître. Que faisons-nous alors ? Eh bien, nous cherchons des remèdes. Notamment, nous tâchons de le soutenir par l'avenir. Comme s'il y avait donc un déficit, un défaut d'être dans le présent, il y en a un, et comme si, pour vaincre ce déficit, pour combler le vide, nous cherchions à le remplir. Mais le paradoxe, l'absurdité ici, c'est que nous cherchons à remplir du vide par du vide. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, dit Pascal. Mais cet avenir ne sera pas nécessairement, et plutôt même sera nécessairement autre que ce que nous avons pu imaginer, anticiper, espérer, etc. Donc nous tâchons de le soutenir par l'avenir, mais par là, nous retombons dans une nouvelle affliction parce que ce qui adviendra ne sera pas ce que nous aurons voulu. Pascal continue en disant « Nous pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. » Donc nous voyons bien qu'il est nécessaire et légitime d'anticiper l'avenir, de préparer demain après demain notre carrière, la vie, la vitalité, la retraite, pour parler un peu de choses d'actualité aussi. Voilà, nous anticipons bien et nous préparons l'avenir, évidemment, nous mettons de côté pour nos vieux jours, que sais-je. Mais Pascal montre aussitôt, là encore, la fine pointe de l'absurdité de l'attitude, c'est que nous n'avons aucune assurance d'arriver. Donc nous travaillons, comme il le dit, nous travaillons pour l'incertain. Mais il est nécessaire de travailler pour l'incertain. Il serait sans doute absurde ou dangereux que d'attendre les bras croisés que demain advienne. Il n'adviendrait pas selon nos souhaits. Pascal nous demande ensuite de revenir à nous-mêmes, d'examiner nos pensées, que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Il continue donc l'examen de la thèse initiale. Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous n'habitons pas le présent. Si nous regardons bien par un retour à nous-mêmes nos pensées, nous voyons que nous sommes tout le temps préoccupés par ce qui a été et qui n'est plus en le regrettant, et préoccupés par ce qui viendra, qui pourrait advenir, en l'espérant, en le préparant, et en étant bien sûr plein d'illusions dans cette préparation. Il en découle que nous ne pensons presque point au présent. Il nous arrive de penser au présent. Mais quand nous sommes attentifs à ce qui est, à nous-mêmes, présents à autrui, présents au monde, présents à Dieu, nous n'y pensons pas, nous ne pensons pas au présent pour lui-même et nous ne pensons pas au présent en tant que ce présent est en rapport avec l'éternité. Si nous pensons au présent, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Pascal en conclut que le présent n'est jamais notre fin. La fin, c'est-à-dire le ce en vue de quoi nous pensons, agissons et ressentons. Le présent est simplement un moyen. Nous ne tenons pas au présent. Pourquoi ? Parce que nous sommes tout entiers tournés vers l'avenir, vers un avenir ici purement chimérique, illusoire, vers un avenir que nous rêvons mais qui sera autre que nos rêves, et vers un avenir tel que de toute façon, un jour, nous ne serons plus. Et donc nous aurons bel et bien travaillé pour l'incertain. Le présent n'est pas notre fin, le présent n'est qu'un moyen en vue d'une fin, mais en vue ici d'une fin chimérique, d'une fin qui ne sera pas de toute façon, ou qui ne sera pas telle que nous l'aurons cru. Le seul avenir est notre fin. Voilà donc un homme tout entier tourné vers demain. Comme si demain, enfin, allait advenir ce qu'il a attendu toute sa vie. Donc nous voilà un homme en attente. Mais cette attente est une fausse attente, parce que ce n'est pas l'attente de ce qui advient dans le présent, à savoir l'éternel, à savoir Dieu. C'est l'attente de quelque chose d'indéterminé, nous ne savons pas quoi, mais nous sommes toujours en train d'attendre. Là, Pascal est extrêmement profond encore, et il y a une finesse psychologique, pour dire ainsi, qui est en même temps une finesse morale. Il comprend que l'homme est un être toujours en attente d'un je ne sais quoi, de ce dont lui-même l'homme ne sait rien, mais comme si enfin demain pouvait lui être donné ce qu'il a toujours attendu sans savoir quoi. Voilà. On pourra retrouver ça aussi dans la pièce de Beckett En attendant Godot, par exemple. Le théâtre moderne creusera aussi tout cela, approfondira, méditera encore cela. La conclusion de ce fragment est bel et bien sévère pour nous. Je relis donc: ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Voilà donc l'homme ne vivant jamais. C'est un peu cruel à entendre. Nous ne vivons jamais. Nous ne sommes pas dans la vie. Nous n'habitons pas la vie. Nous ne sommes pas dans la plénitude de la vie. Nous sommes simplement dans l'attente, dans l'espérance. Demain. Demain, quand j'aurai de l'argent. Demain, quand j'aurai des amis. Demain, quand je connaîtrai l'amour. Demain, quand je serai en bonne santé. Enfin, c'est toujours demain, de toute façon. Et nous ne sommes jamais dans la vie, mais toujours dans l'attente d'une vie qui reste une vie chimérique, une vie imaginaire. Conclusion, Pascal dit: et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Le verdict est sévère de la part du juge. Nous ne sommes jamais heureux. Mais nous avons compris pourquoi nous ne sommes jamais heureux. Nous sommes toujours en attente d'un bonheur, et le bonheur est comme, par définition ici, à venir. C'est demain. Demain, tu verras. Demain, je serai un autre. Demain, tu pourras m'aimer. Demain, je serai merveilleux, etc. C'est toujours demain. Le bonheur est toujours reporté. Il est au programme pour demain. Mais il n'est pas au programme pour aujourd'hui. Et si le bonheur est toujours pour demain, si nous sommes toujours à nous préparer, mais à nous préparer de manière imaginaire pour un bonheur imaginaire, il est inévitable que nous ne soyons jamais heureux. Alors, il y aurait évidemment une issue, il y a une issue apparente qui est en fait qui n'est pas du tout celle de Pascal. Parce qu'un lecteur superficiel ici pourrait en conclure que Pascal nous convie au carpe diem, nous demande de cesser d'errer dans des temps qui ne sont pas nôtres, d'errer dans le passé et le futur pour nous concentrer, nous rassembler dans le temps présent afin de vivre au présent. Et à ce moment-là, donc, nous pourrions jouir du présent en tant que tel. En fait, il n'en est rien, ce n'est pas du tout la pensée de Pascal. Pascal dénonce bien une attitude illusoire en nous, puisque nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et que nous ne sommes jamais heureux parce que nous faisons tout pour ne jamais être heureux. Mais Pascal ne nous conseille pas pour autant de nous rassembler dans le présent et de vivre enfin au présent. Qu'est-ce qui permet de le savoir? Eh bien, d'autres fragments qu'il faudra lire, mais d'abord déjà ce fragment. Que dit-il? Le présent d'ordinaire nous blesse. Et donc par là, nous voyons bien que si nous avons dénoncé une illusion, cet homme qui erre, qui attend et qui ne sera jamais heureux, la solution ne consiste pas alors à renoncer au futur, à oublier le passé pour nous recroqueviller dans le présent. Nous ne pouvons pas nous recroqueviller et nous ne pouvons pas d'abord mieux nous tenir dans le temps présent. Le présent, d'ordinaire, nous blesse. Alors, quelle sera la bonne attitude pour Pascal? Eh bien, la bonne attitude ne sera pas donc d'oublier le passé et de renoncer au futur pour nous recroqueviller dans le présent. La bonne attitude sera de nous tourner vers l'éternel dans le présent, en assumant ce qui a été et en espérant ce qui sera, mais en sachant maintenant que ce qui sera, c'est quelque chose qui a déjà été et qui est, à savoir la venue de Dieu. Et c'est ce qui permet ici, donc, alors que nous méditons sur la misère de l'homme sans Dieu, d'anticiper justement qu'il n'y aura de joie véritable pour l'homme que auprès de Dieu, que la joie véritable sera la venue de l'éternel dans la chair et sera la venue de l'éternité dans le présent. Mais à ce moment-là, évidemment, nous ne sommes plus dans ce que nous étudions maintenant, qui est la misère. Pascal continue sa méditation de la misère avec un autre fragment magnifique en disant ceci. Il parle de l'inconstance. Grande méditation de l'inconstance. Je lis. « On croit toucher des orgues ordinaires en touchant l'homme. Ce sont des orgues, à la vérité, mais bizarres, changeantes, variables, dont les tuyaux ne se suivent pas par degrés conjoints. Ceux qui ne savent toucher que les orgues ordinaires ne feraient pas d'accord sur celles-là. Il faut savoir où sont les touches. » Comparaison, belle comparaison, de l'homme avec un orgue, une orgue. Un instrument de musique, piano, clavecin, l'orgue est tel qu'il y a des octaves, donc la gamme que tout le monde connaît, et à ce moment-là, en touchant la note Do, nous obtenons un Do. Et nous savons, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, nous savons dans quel ordre les touches sont placées. Et nous savons donc à l'avance qu'en touchant telle touche, eh bien, nous obtenons telle note. Voilà cependant quelque chose d'étrange avec l'homme, c'est que s'il est comparable à un orgue, ce n'est pas un orgue ordinaire. Parce que les tuyaux, donc les notes, ne sont pas proportionnés. Les notes ne se suivent pas par des degrés conjoints. Mais justement, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons de l'imprévisible, nous avons de l'étrange et nous avons d'abord du changeant. Tel jour, en touchant telle note, j'obtiens un Do, le lendemain, j'obtiens un La, etc. Et donc, nous voyons ici le trait majeur de l'homme qui est l'inconstance. L'inconstance, cela veut dire que c'est le contraire du repos. Au sens antique. L'homme est incapable de trouver son repos. Je rappelle que l'idée de repos, ce n'est pas l'idée de la sieste, mais l'idée de la plénitude, de la constance. Est constante une chose qui est parfaite et qui n'a plus à changer. Or, que découvrons-nous en regardant l'homme, justement, son inconstance? Il est incapable de rester en quelque état de manière stable. Il y a une instabilité foncière de l'homme. Un orgue instable, c'est un orgue mal accordé qu'il faudrait réaccorder. Et voilà donc un homme caractérisé par une foncière instabilité. Il change d'état, il change de direction, il change de mille choses incessamment. Et par conséquent, donc, l'homme est profondément imprévisible. Voilà donc la misère de l'homme. Vous voyez que Pascal ici n'en tire pas gloire, n'en tire pas joie, puisque précisément, par là, chacun est pour soi-même et pour autrui rigoureusement bizarre, changeant, variable, imprévisible. Et le malheur de l'homme vient de son inconstance.